Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'unpack Samsung d'hier soir, toutes les nouveautés sur les Galaxy S24. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 18 janvier toujours 2024. J'ai un petit doute. C'est bon, on est bien en 2024 et on va démarrer tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien? Je suppose que la plupart d'entre vous sont sous la neige. Ici, Paris enneigé, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Parce que je connais bien l'automobiliste et le scooter parisien sur la neige. C'est une conduite quantique. Oh, maintenant, on met du quantique partout, même dans les crèmes de beauté. Donc, pourquoi pas dans les conduites? Donc, j'ai fait super gaffe en traversant les rues, en venant. J'essayais de jauger la trajectoire de la bagnole qui est avec ses pneus pas du tout neige. Il y a que le Nord et Paris où il y a de la neige, d'accord, pardon. En tout cas, ouais, à Paris, il y a eu un peu de neige. Elle va pas tenir longtemps, elle est bien mouillée la neige, mais ça glisse bien. Moi-même, j'ai failli quand même me vautrer 2-3 fois avec... J'ai pas sorti mes chaussures de montagne. Paris enneigé, mais Paris libéré. En tout cas, Paris silencieux. Ça, c'est un moment de grâce absolue. Paris sous la neige, ce grand manteau blanc étouffant les bruits, cachant la pollution et la pisse de chien et les crottes. Un Paris immaculé. Je ne continuerai pas avec les rimes. Pas-de-Calais, on se met bien niveau neige. C'est cool. Ça part sur du télétravail, la bonne excuse. Ah oui, non, les Parisiens et la neige, c'est comme tu dis, c'est retour à l'âge de glace. Le Parisien ne se tient plus hein, dès qu'il y a trois flocons. Hein, et je me permets de moquer parce que moi, j'ai passé quand même une partie de ma vie à Grenoble. Là, la neige, on connaissait un peu plus, un peu moins maintenant. Et c'est vrai que quand tu vois la réaction du Parisien à la neige, tu te dis, ouais, il n'a pas l'habitude quand même. Mais bon, arrêtons de tirer sur le Parisien. Le Parisien n'a pas de pneus neige. Hein. Le Parisien n'est pas équipé. Le Parisien ne sait pas freiner sur de la neige. Ou il ne faut pas freiner, justement. Enfin, freiner, mais par petits à-coups. Le Parisien glisse. D'ailleurs, Parisien, ça vient de Parisie. Hein. Parisie, c'est le Parisien qui glisse. Parisie. C'est pas de moi, c'est de des proches. Mais il disait que c'est parce qu'on glissait sur des crottes de chien. Tu as vécu aux US, tu as vécu à Grenoble. J'ai même vécu en Savoie aussi, en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis partout. J'ai un peu déménagé dans ma vie, mais pas tant que ça, en fait, par rapport à d'autres. Ça dépend. Par rapport à quelqu'un qui n'a jamais bougé dans sa vie, oui, j'ai un peu déménagé. C'est ceux qui accueillaient les occupants romains en leur criant « C'est Parisi !» C'est vrai que tant qu'à avoir des références, des proches... Bah, des proches, c'est la base. Bon, la plupart des sketchs de des proches ne passeraient plus du tout aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Des proches étaient un génie. Je sais pas ce que ça aurait donné des proches à l'âge des je pense qu'ils seraient éclatés avec les réseaux sociaux. Je pense qu'ils seraient éclatés avec les réseaux sociaux. C'est comme un Toulousain face à la pluie, ouais. Bref, on a beaucoup, beaucoup de choses à voir, aujourd'hui. Jamais compris l'humour des proches, ça t'a jamais fait rire. C'est un certain type d'humour. qui était avant-gardiste par certains aspects, mais qui reste ancré aussi quand même dans une époque. Bon, on n'est pas là pour commenter les humoristes du jour. On a beaucoup, beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Donc, je vais essayer de pas trop traîner, surtout sur les premiers articles, parce qu'on en a deux gros. Aujourd'hui, on va commencer, comme maintenant le mug, c'est mes mugs en tout cas, moi c'est le jeudi et le vendredi, Marion c'est le mardi, on a un peu plus de news à couvrir sur la semaine, donc il y a des articles qui sont un petit peu plus anciens, ça c'était plutôt un article de début de semaine, mais je veux en parler quand même. Un article de Frandroid, Samsung détrôné par Apple après 13 ans de règne sur le marché des smartphones, on va décortiquer un petit peu les chiffres. On va parler également, alors désolé, là le adblock n'a pas fonctionné, donc vous aurez les pubs. On va parler un petit peu avec Forbes.fr de la décision d'Apple de prélever une commission de 27% sur les paiements externes sous le feu des critiques. Je vous expliquerai un petit peu, j'essaierai d'aller vite, mais vous allez comprendre. On va parler, et c'est un peu attenant à ça, par un article de ZDNet.fr de l'Europe avec l'App Store d'Apple qui sera bientôt coupé en deux. On aura un App Store effectivement différent en Europe. Bien sûr, alors arrivent les poids lourds après. On va résumer avec Numerama.com, on va résumer les 10 nouveautés des Samsung Galaxy S24 que j'ai un tout petit peu pris en main. J'ai une à peu près pendant une heure, j'ai une présentation chez Samsung, donc je pourrais vous en parler de vive voix aussi, de mon petit retour. Nous parlerons également du Vision Pro, parce que il est en précommande demain aux États-Unis, mais Apple a un peu relâché la bride sur les journalistes, leur a permis de publier les premiers articles avec des photos d'eux portant le Vision Pro, et on a des premières réactions, donc ça peut être intéressant à analyser. Si on a le temps, je pense qu'on l'aura pas, mais on sait jamais, on fera peut-être un article, un petit peu de discussion avec vous sur la position d'Ubisoft qui veut proposer un abonnement aux jeux vidéo, ce qui a créé un petit peu une polémique sur le fait de posséder ces jeux vidéo ou pas. C'était un article de Numérama, on verra si on a le temps. Sinon, on en parlera peut-être demain dans le mug libre, le mug gravier du vendredi. J'ai un faux contact dans mon écran. Il va falloir que je vérifie mon câble management. Ça tressaute. Vous en foutez, moi aussi. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on va démarrer tout de suite, effectivement, par parler de ce patatras. cette info. Mais en vrai, c'est une info assez intéressante. C'était donc en début de semaine, on apprenait que Apple avait détrôné Samsung en termes de volume de distribution de smartphones sur le marché. Alors, si vous le saviez pas, Samsung était premier en livraison de smartphones depuis 13 ans de domination depuis 2010, donc. Depuis 2010, Samsung était le premier en termes de volume de smartphones distribués. Et c'est vrai qu'on, nous, en tout cas, à Chroniqueur Tech, on disait toujours Apple, il est pas le premier, mais on s'en fout parce que c'est eux qui font le plus de marge. Apple ne se bat pas au niveau des volumes. Ben, en fait, si, quand même. Et c'est vrai, je vais vous faire un petit peu l'article, je vais le commenter un petit peu après. Selon des données préliminaires d'IDC, Apple a surclassé Samsung en termes de volume de smartphones distribués en 2023. Avec 234,6 millions d'iPhones écoulés, Apple a devancé Samsung qui n'a livré que 226,6 millions d'appareils. Derrière ces deux géants, Xiaomi se classe troisième, bien qu'à une distance notable avec près de 146 millions d'unités vendues. Sachant que Xiaomi est quand même sous le coup d'un certain nombre d'interdictions aussi. Cette situation marque un tournant historique pour Samsung qui n'avait pas cédé la première place depuis 2010, époque où sa principale rivalité se jouait contre Nokia. Nokia ayant quasiment complètement disparu du tableau depuis 13 ans. Apple a surtout réussi à convertir de très nombreuses... Alors, les raisons de ce mouvement. D'abord, d'après les analystes, il y a eu un grand succès chez Apple, c'est d'avoir réussi à convertir de nombreux utilisateurs Android. Durant 2022, Apple s'était vanté d'avoir recruté un nombre record de switchers passés d'Android à l'iPhone. C'est pas une opinion, c'est des faits, a priori, en tout cas, c'est des analyses. Il faut dire, et c'est vrai que je l'ai fait il y a pas longtemps, pour ma filleule. Ma filleule a migré d'Android à iOS et j'avais jamais fait l'application migrer vers iOS qui existe sur Android, que Apple fournit. C'est hyper bien fait. C'est ultra bien fait. J'avoue que la migration, elle est tranquille, quoi. Également, ce renforcement d'Apple dans la distribution viendrait aussi du succès de leur campagne de marketing sur la vie privée. Je sais que nous, dans la communauté, il y a du scepticisme sur la véracité de cette campagne, que Apple protège mieux votre vie privée. En fait, ça demande plus d'explications que ça, mais globalement... mais par contre, la campagne de marketing a plutôt bien marché au niveau du grand public. Grand public qui, ces dernières années, a commencé à avoir des préoccupations sur sa vie privée qui sont pas toujours rationnelles. Et Apple, dans ses pubs, n'est pas très rationnel non plus. Hein. Souvenez-vous de la pub de la vente aux enchères de vos données. On sait que c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Mais néanmoins, c'est un fait. Apple, jusqu'à preuve du contraire, ne vend pas du profilage publicitaire grâce à la collecte de données. Apple fait de la collecte de données, hein, ça on le sait. Les autres font de la collecte de données. La différence, c'est qu'Apple n'utilise pas, jusqu'à preuve du contraire, cette collecte de données pour faire un business autour du profilage publicitaire. Ce que vont faire des Microsoft, ce que vont faire des Google, ce que vont faire des Meta. Voilà. Et donc cette campagne, en tout cas, serait une des raisons du renforcement des chiffres d'Apple dans le monde. Il y a également la part de marché du reconditionné. Apple est largement dominant sur le reconditionné. 7 produits sur 10 échangés sur le marché du reconditionné sont des iPhones et des Samsung Galaxy. En fait, nous, on vous l'a souvent dit quand on parle du reconditionné, les deux seuls trucs qui se vendent vraiment en reconditionné, c'est du Apple et du Samsung. Mais largement du Apple. Si vous allez sur n'importe quel site de reconditionné, c'est beaucoup du Apple. Les Apple ont, à tort ou à raison, mais en tout cas une réputation d'être des produits fiables qui durent dans le temps et qui gardent une cote, et là c'est des faits, on revend, même un iPhone 10 se revend encore très bien aujourd'hui, 10 ans après, voire plus de... Non, l'iPhone 10, remarque, je sais plus la date de sortie. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, les iPhones se revendent très bien, 5-6 ans. Et d'ailleurs, bon, on en parlera tout à l'heure, mais ce fameux truc des 7 ans de mise à jour, beaucoup disent personne ne garde son smartphone 7 ans, on le sait. Mais par contre, les gens revendent leur smartphone. Donc, si un smartphone a une deuxième vie, une troisième vie, là, c'est important, en fait, les mises à jour pendant 7 ans. Voilà. L'iPhone 10 se vend encore 200-300 euros aujourd'hui. C'est quand même un Argus pas mal, quoi. C'est 2017, l'iPhone 10. Oui, merci de me rafraîchir la mémoire. Donc ça, c'est les raisons. Alors, n'oublions pas, j'en ai vu quelques-uns dans le chat qui le disent. Vous avez raison. On n'est pas en train de comparer Apple à l'ensemble du monde Android. L'ensemble du monde Android est largement dominant en termes de volume de smartphones. Là, on est simplement en train de comparer Samsung et Apple et à noter le fait que Samsung était leader et maintenant, c'est Apple qui est leader. On parle en termes de fabricants. On ne parle pas en termes d'OS. Hein. Là-dessus, il faut quand même préciser les choses. Apple n'a pas battu Android en volume. Mais il faut quand même noter la prouesse d'Apple et de Tim Cook, hein, disons-le, d'avoir réussi à rendre l'iPhone de plus en plus mainstream. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que ça, c'est un peu... oui, les produits Apple sont chers, mais ils sont quand même bien diversifiés au niveau des prix. Apple a assez bien réussi. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, Apple avait été pas du tout sur l'iPhone pas cher. Il disait simplement, tu veux un iPhone pas cher, prends celui de l'année dernière. Tu veux un iPhone vraiment pas cher, prends celui d'il y a 2 ans. Apple aujourd'hui, notamment avec des SE, et probablement en se souciant aussi hein, du marché du reconditionné, on le sent dans leur discours, a finalement, sans forcément sortir des iPhones bas de gamme, Apple a réussi à créer une gamme et des iPhones. Aujourd'hui, on peut avoir un iPhone voilà, pour 200€ qui tient la route, qui peut tourner avec presque le dernier iOS, quoi. Non, Villa Dallet, il y a eu 2 phénomènes hein, quand même sur... là, je vous demande d'être objectif, pas votre opinion. D'abord, il y a des Android haut de gamme qui sont à des prix Apple, on le verra tout à l'heure. Donc, le haut de gamme a été... Apple s'est fait rattraper. Beaucoup, beaucoup maintenant de fabricants Android sortent des très haut de gamme, très, très chers. Aussi chers qu'Apple. Et Apple, notamment par sa réputation dans le reconditionnement, tu peux avoir, honnêtement, ça mériterait d'ailleurs de faire un test. Même si moi j'aime pas comparer des iPhones et des Android parce que c'est 2 choses assez différentes en fait. C'est des pommes et des oranges, ça se compare pas. Mais, entre acheter un Android à 200€ et un iPhone 10 par exemple à 200€, je ne sais pas quel est le meilleur achat si tu veux dépenser pas cher. Parce qu'honnêtement, un iPhone à 200€, les garanties de mise à jour, c'est pas bien long. C'est des smartphones qui sont irréparables, généralement. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. À voir. Je pense que, par contre, la réputation d'Apple trop chère... lui colle à la peau et ça l'arrange bien, hein, d'ailleurs, Apple, hein, en termes de marketing. Parce qu'en vrai, on sait que les acheteurs iPhone achètent peut-être plus cher à l'achat, mais les gardent plus longtemps. Enfin, voilà, il y a plein de manières de faire les calculs, quoi. Bah, on a déjà fait un peu une vidéo là-dessus. Hein, vous payez votre smartphone trop cher. Et c'est des choses qu'on dit régulièrement. Est-ce qu'on en fera une vidéo dédiée? Ça reste à voir. J'ai vraiment des problèmes avec mon écran. J'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin du live. Voilà, en tout cas, c'est un fait. Aujourd'hui, Apple, en termes de constructeur, est le premier constructeur en volume au monde. Nous avons basculé dans un autre monde. On passe à l'article suivant. Ce que je voulais un petit peu éclaircir, parce que j'ai vu un peu sur les réseaux des choses qui partaient un peu dans tous les sens sur les 2 articles suivants. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de 27%? Alors, en fait, mardi 16 janvier, la décision d'Apple de prélever une commission de 27% sur tous les achats in-app réalisés par l'intermédiaire des plateformes de paiement externes a été contestée par plusieurs développeurs, dont Tim Sweeney d'Epic Games. En fait, mardi, Apple a mis à jour sa politique de l'App Store pour permettre l'utilisation de méthodes de paiement externes afin de se conformer à une ordonnance de 2021 après la décision de la Cour suprême des États-Unis. Cette nouvelle politique permet aux développeurs d'utiliser d'autres méthodes de paiement que celles d'Apple, mais le géant de la technologie continuera de percevoir une commission de 27% sur toutes les transactions, 12% pour les petits développeurs au lieu des 30% et des 15% habituellement. En gros, pour vous la faire simple, parce que l'article est chiant, hein, c'est un article de Forbes. Désolé Forbes, mais vos articles sont soporifiques. vous saviez que sur l'App Store, Apple prend une marge de 30% ou de 15% selon si vous êtes un petit développeur ou un gros développeur, Apple se prend 30% de marge ou de commission ou 15% de commission. Ce qui avait déjà créé... Google le faisait aussi. Enfin bon, on rentre dans le Store War. On rentre dans le Store War, c'est un autre débat. Apple est poussé, et là, c'est pas par l'Europe, hein, c'est une directive de la Cour suprême des États-Unis. Apple va être obligé d'accepter d'autres systèmes de paiement. Il y avait ça sur l'App Store, c'est que si vous vouliez faire un achat in-app, vous passiez par le système d'Apple de paiement qui est obligatoire. Vous n'aviez pas le droit, et ça a été le fameux, la fameuse histoire des V-Bucks sur Fortnite. Dans l'application, et c'est pour ça qu'on n'a plus Fortnite. Bref, je vous refais pas l'histoire. Et donc, avec ce système de paiement, ça assure que Apple prend 30% sur la moindre micro-transaction, que vous abonniez à Netflix, que vous preniez un sub sur Twitch. C'est toujours plus cher si vous le faites avec une app Apple, parce qu'ils sont obligés de passer par le système de paiement d'Apple. Donc là, la Cour suprême des États-Unis a dit non, Apple, vous êtes obligé d'accepter des systèmes de paiement externes. Vous n'avez pas le droit à obliger le système de paiement d'Apple. Soit quoi, Apple a dit OK, eh bien, si vous utilisez un autre système de paiement, nous ne prendrons plus 30% de commission. Nous prendrons 27% de commission. Alors, ça a déclenché effectivement des réactions, notamment d'Epic Games. Epic Games, je ne reviens pas dessus, mais ils ont fait un gros procès avec Apple, qu'a priori, ils ont perdu. Là, on a appris d'ailleurs que Apple leur demandait, je crois, 71 millions de dollars pour couvrir les frais d'avocat, enfin, les frais de justice. Doit être une bonne vie hein, d'être avocat d'Apple, quand même. Donc là, le PDG d'Epic Games dit vous êtes gonflé, Apple. Vous allez prendre quand même une commission sur des systèmes de paiement externes. Et en plus, les systèmes de paiement externes, vous faites tout pour qu'on les utilise pas. Vous les planquez à un autre endroit de l'app. Et ça, c'est dans les conditions d'utilisation d'Apple, les nouvelles. C'est que Apple précise que les systèmes de paiement externes doivent être séparés dans une section différente de l'application, dans un espace différent de celui où les utilisateurs achètent réellement des produits. Donc, ils ne veulent pas que les systèmes de paiement externes soient accolés à leur système de paiement. Également, si vous optez pour un système de paiement externe à celui d'Apple, vous allez avoir un gros message rouge qui s'affiche. Vous êtes sur le point de quitter l'application et d'aller sur un site internet externe. Apple n'est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité des achats effectués sur Internet. En vrai, Apple dit rien de mal, mais c'est la manière de le dire. On imagine bien que ça va faire paniquer plein de gens. Est-ce que Apple a le droit de faire ça? Il va y avoir probablement encore des procès, hein. C'est des malins, Apple. C'est des malins. Quand il s'agit de leur sacro-sainte marge, ils se défendent comme des lions. Ils se défendent comme des hyènes. Apple, tu touches pas à la marge, quoi. Apple, on n'a rien à foutre de l'opinion publique. Apple, on n'a rien à foutre qu'on soit scandalisé par leur prix. Apple, on n'a rien à foutre qu'on soit scandalisé par leur marge. Chez eux, c'est sacré, la marge. On n'y touche pas, quoi. En vrai, Apple est complètement indifférent à l'opinion publique sur le fait qu'ils font des marges disproportionnées. Rien n'a fait faire. Et d'un point de vue expert comptable, ils ont raison. Ça en a fait la boîte la plus profitable du monde. Voilà. Et même si c'est une palissade de dire ça, tant que les gens achètent à ce prix-là, ils n'ont pas tort. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais, et même Apple le sait, parce qu'ils analysent, hein, ils sont pas cons, hein. Ils savent que des gens sont même prêts à payer plus cher s'ils mettent encore plus de choses dans leur prochain smartphone. Ah non, ils en ont pas rien à foutre de leurs clients. Tu peux pas dire ça, Gigi. Derrière, quand même, il y a une partie de la marge d'Apple. J'aimerais bien savoir combien. Alors, attention, Apple, se la met très très bien. Et c'est la boîte qui se la met le plus bien au monde. Mais ils lésinent quand même pas sur les services derrière. Le SAV d'Apple doit coûter une blinde à entretenir, quoi. Et c'est un des meilleurs au monde. On peut pas dire que Apple, c'est vraiment foutage de gueule du client. Il y a quand même des prestations dans le prix Apple que tu n'as pas chez d'autres marques. Après, comme vous direz toujours, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais trop cher, ça veut rien dire. Trop cher pour vous, ça veut dire quelque chose. Mais rien, Apple ne vous a jamais tordu le bras pour vous obliger à acheter des produits Apple. Après, vous pouvez critiquer les gens qui achètent Apple en disant « vous êtes des pigeons ». Les gens qui achètent Apple ne se voient pas comme des pigeons. Ils savent qu'ils achètent, la plupart savent qu'ils achètent peut-être pas la dernière innovation ou le dernier truc, mais ils achètent un écosystème, une certaine sécurité, vraie ou fausse, ça, on peut avoir un débat, mais en tout cas une impression de cocon, de protection, de SAV, de fiabilité. C'est exactement comme le marché de la voiture. J'y connais rien, mais il y a des marques qui se positionnent comme ça. Quand vous achetez telle ou telle marque de voiture, vous payez pas forcément le prix de fabrication de cette voiture, mais un certain confort, un certain service. Voilà. Et puis, même en termes d'achat rationnel, n'oubliez pas que quand vous achetez du Apple, vous achetez un produit qui va garder un Argus assez haut pendant très longtemps. Donc, même d'un point de vue économique, si t'as de quoi acheter un iPhone, c'est pas forcément une perte d'argent. Je sais que c'est difficile à comprendre. Tout dépend quand tu le revends, comment tu le revends, combien de temps tu l'utilises. Et il y a des gens, au contraire, qui font des tableaux d'amortissement et qui arrivent à montrer que acheter Apple leur coûte moins cher que s'ils achetaient des Android qui changeaient souvent. Voilà. Donc, après, vous avez le droit d'avoir des opinions et de penser que les gens qui achètent Apple sont débiles, ils savent pas ce qu'ils font, etc. Là, on parle de faits, en fait. Bah, Wendigo, désolé pour toi si t'as eu des mauvaises expériences sur le SAV d'Apple. Moi, je trouve même que le SAV d'Apple est encore meilleur qu'avant. Ils sont même assez incroyables en SAV. En tout cas, moi, c'est l'expérience utilisateur que j'en ai. C'est assez extraordinaire. La dernière réparation que j'ai faite sur un produit Apple, j'étais limite à dire « Vous êtes sûr, là, que j'ai rien à payer ?» Ah non, honnêtement, puis ils ont été impeccables à m'appeler, à me dire « ça va prendre un peu de retard, parce que là, la pièce, on l'a pas, mais vous inquiétez pas. Ah bah oui, vu que vous pouvez le prendre. » Moi, c'était l'écran de mon MacBook Air qu'ils ont changé. Et en fait, ils ont même arrangé les choses pour que j'ai rien à payer tout en venant le récupérer un mois après. Et à ce moment-là, la garantie n'aurait plus fonctionné. Ils ont été topissime, quoi. Honnêtement, non seulement c'est le meilleur SAV que j'ai jamais eu en tech, mais c'est le meilleur SAV que j'ai eu de ma vie en tout. Non, non, parce que je partais en Bretagne et je pouvais pas venir le rechercher avant un mois, ce qui aurait prolongé finalement ma garantie, qui me faisait sortir de ma garantie d'un an. Non, et alors ça je l'ai dit Yves, que j'en ai parlé, ils ne m'ont pas reconnu, celle qui m'a fait tout ça ne me connaissait pas, c'est son collègue après qui lui a dit c'est Jérôme, parce que certains me connaissent à l'Apple Store, mais je vous jure, après vous pouvez me croire ou pas me croire, ils m'ont pas fait un traitement de faveur quoi. Ouais, Wendigo, désolé, je vais pas te suivre là-dessus parce que là, t'es en train de faire de la sémantique. La meilleure SAV, c'est celui dont on n'a pas besoin. Tout objet technologique, il y en a pas de parfait, ça casse. On a tous besoin de garantie. Enfin bon, bref. « Après, j'entends que certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu une bonne expérience au SAV, mais quand j'ai fait une vidéo sur le sujet, la vidéo « Pourquoi Apple, c'est si cher ?» allez lire les commentaires des gens. J'avais demandé aux gens « Racontez-moi un petit peu votre SAV chez Apple. » On va dire qu'au moins, j'aurais envie de dire 90, mais au moins 80% des commentaires sont dithyrambiques sur la qualité du SAV Apple. Donc après, vous avez le droit d'avoir une opinion. Mais sachez que la plupart des gens ont une vraie satisfaction sur le SAV Apple. Voilà. Je vois même dans les commentaires, la plupart de vous, vous avez eu des bonnes choses. Donc, juste pour revenir sur le fond de l'article. Est-ce que Apple... Alors, il faut quand même terminer, parce que ça ferait presque sourire. Un blog autour d'Apple dit, alors est-ce qu'il a eu des fuites, que Apple considère que c'est complètement normal de prendre une commission de 27%, parce que c'est une manière de facturer aux développeurs l'utilisation de sa propriété intellectuelle, en l'occurrence l'écosystème iOS. En gros, Apple trouve que, comme ils ouvrent et que les développeurs vont faire beaucoup d'argent avec leur app, Apple fait payer un ticket d'entrée au marché iOS et à ses propriétés intellectuelles. Et pourquoi 27% et pas 30%? C'est là où ça peut faire un rictus, c'est que 3%, c'est le fonctionnement du traitement des paiements réels d'Apple. Donc, 3%, c'est ce qui permet à Apple de faire leur système de paiement interne. Et 27%, c'est la licence d'accès au marché d'Apple. En vrai, dans une logique complètement capitalistique, Apple a pas complètement tort. Je t'ouvre mon marché. Voilà. Un stand sur mon marché, ça vaut tel prix. Si tu veux venir vendre tes produits ici, il faut que tu t'achètes un stand. C'est ce qui se passe dans les salons, c'est ce qui se passe dans plein de réseaux de distribution, même dans votre supermarché. Vous ne savez peut-être pas, mais les marques payent leur place, leur placement dans les linéaires. Il y a tout un marché, en fait, d'être placé dans des marchés. Frais de dossier, la sauce caramel sur le flanc. Oui, c'est un peu ça, ouais. En fait, il ne faut pas confondre deux débats, même trois débats. Est-ce que Apple a le droit de faire ça? Ça, c'est aux législations de décider. Est-ce que c'est des pratiques anticoncurrentielles, etc. Les législations, et on va en parler dans l'article suivant, tranchent là-dessus. Est-ce que c'est donc légal, c'est une chose. Est-ce que c'est moral, c'est une chose. Est-ce que c'est malin, c'est une autre chose. Voilà. Après, j'ai pas dit que Apple. Ça me fait sourire aussi. Ça me fait sourire, mais c'est le genre de sourire où je suis partagé entre... Putain, ils sont bons, hein, les mecs de la compta chez Apple, quand même. Ils sont culottés, mais ils sont bons, hein. Ils ont peur de rien, hein. Voilà. En fait, le problème de ce genre de débat, c'est qu'on arrive vite à... une entreprise qui fait autant d'argent... Est-ce qu'on ne devrait pas remettre en cause le système qui permet l'existence de ce genre d'entreprise? Mais en même temps, on pourrait dire, une entreprise qui réussit aussi bien dans ce type de système économique a très bien compris le système économique. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, il y a un moment, si vous trouvez ça outrageux, c'est peut-être le système économique à remettre en cause. Donc, une certaine partie du capitalisme, oui. Mais vous voyez, on glisse vite sur d'autres débats, en fait. C'est d'ailleurs souvent quand on en a marre de cette discussion, on termine avec l'argument, bon, de toute façon, tant que les gens payent, ils auraient tort de se priver, Apple. C'est l'argument facile de sortie de discussion sur ce type de discussion. En tout cas, vous avez bien vu dans l'article précédent, ça marche bien pour eux, hein. Ils n'ont jamais vendu autant d'iPhone, donc ils ont quelque part, ils n'ont pas complètement tort, hein. Non, tu peux pas non plus, Bicris, avoir un argument aussi lapidaire que t'es pas content, tu te casses. Heureusement, justement, qu'il y a des législations qui empêchent les entreprises d'être jusqu'au boutiste sur le capitalisme et les empêchent, justement, de faire des monopoles. Parce qu'attention, le capitalisme porte en son sein quelque chose qui tue le capitalisme. Il porte en son sein sa propre mort. S'il n'y a plus de concurrence, le capitalisme s'effondre. Donc, c'est un peu plus... En fait, il faut toujours se méfier de ces phrases lapidaires de sortie de conversation. Hein, les réponses simples à des problèmes complexes, ça existe de partout. Mais je comprends ce que vous voulez dire, je vous critique pas, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça y est, on est parti philo, la vie, la mort, tout ça, Oleg, le feu, bien sûr. Non, on passe à l'article suivant. On passe à l'article suivant, justement, un peu attenant à celui-là, puisque Apple se prépare à apporter des changements à son App Store pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques. Donc, vous voyez, le DMA va intervenir aussi sur les aspects du marché, notamment de la distribution des apps. Le DMA considère qu'il est injuste que les fournisseurs de plateformes comme Apple imposent aux utilisateurs de leur appareil leur propre magasin d'applications. Elle les oblige donc à autoriser l'installation de boutiques d'applications tierces, le fameux sideloading. Je suis chez Apple, mais le DMA et la Commission européenne, enfin le marché européen, trouvent que c'est injuste que Apple s'arroge le droit d'être le seul et unique place de marché d'achat de produits externes que sont les applications. En réponse, Apple serait en train d'apporter des modifications. Donc, c'est un combat qu'a perdu Apple parce que Apple se bat depuis des années en disant non, on veut pas d'un autre marché chez nous. Il n'y a que nous qui avons le droit de faire un marché dans iOS. C'est chez nous. Bah, ils ont perdu. Enfin, ils sont en train de perdre contre l'Europe. Hein. L'Europe a quand même de la puissance. Et Apple sera en train d'apporter des modifications à son store pour se conformer à la loi sur les marchés numériques. L'App Store sera donc scindé en deux. Un App Store sera réservé aux utilisateurs de l'Union européenne, ceux qui sont soumis à la loi sur les marchés numériques, et l'autre pour le reste du monde. Margrethe Vestager, qu'on connaît bien, commissaire européen chargé de la concurrence, a rencontré Tim Cook, PDG d'Apple. J'aurais adoré être une petite souris pour sentir l'ambiance dans la pièce. Elle l'a rencontré la semaine dernière. Il lui a dit, tiens, essaye le Vision Pro, tu vas voir, c'est génial. Allez, oublie cette histoire-là. Mets ça devant ton visage, tu vois, regarde, tu peux jouer avec les dinosaures. Donc, Margrethe a dit à Tim, hein, attention, Tim, je te rappelle que la DMA exige qu'Apple accorde aux applications tierces l'autorisation d'installer des applications iOS. Hein. C'est pas que, hein, Apple, on te voit venir, Tim. C'est pas juste, ok, on va laisser des petits marchés qui vendent de la merde se foutre là. Non. Vrai libre marché, c'est que tu laisses des stores s'installer, mais ils peuvent distribuer aussi bien les applications que toi, tu as sur ton marché. Parce que sinon, bah, la concurrence ne se met pas en place. Hein? Apple doit également donner aux développeurs la possibilité de distribuer des applications iOS en dehors de l'App Store et permettre aux applications tierces d'utiliser des systèmes de paiement tiers. En conséquence, Apple devrait apporter des modifications majeures à l'App Store, à FaceTime, à Siri et d'autres applications en Europe. Alors, je regarde pas le chat, mais il y a plusieurs types de réactions classiques à ce genre d'infos. Oh là là, on va avoir un App Store catastrophique en Europe. Apple va nous punir de les empêcher de faire ce qu'ils veulent en Europe. Les apps vont arriver en retard. J'ai vu quelqu'un tweeter que du coup Netflix ne sortait. Alors du coup il y a des apps qu'on n'aurait pas en Europe, que ça va être catastrophique et du coup il va se mettre sur l'App Store américain. Non, c'est d'abord il y a un truc que vous oubliez quand même, c'est que si Apple courbe les chines dans ce bras de fer, c'est que certes, l'Europe n'est pas un acteur majeur de la tech, mais on est un marché majeur de la tech. Apple ne peut pas se passer de l'Europe. Au même titre qu'Apple ne peut pas se passer de la Chine ou de l'Inde, Apple ne peut pas se passer de l'Europe. Apple ne peut pas se dire « Bon, ok, les Européens, vous nous pétez les roubignoles avec vos DMA, vos Margaret et vos règles, là. Hein, on se casse. Si vous n'êtes pas content, eh ben, vous aurez plus d'iPhone. » Non. Ça ne se passera jamais, ça. Salut, Basti. Non, c'est pas ce qui se passera. Apple va pas punir l'Europe. Hein? Après, voilà, ils peuvent... Oui, peut-être qu'il y aura des petites mises à jour en retard, mais pas trop. Apple n'a pas intérêt à faire ça, en fait. Oubliez pas un truc. Apple a des... Un iPhone n'est déjà pas pareil en Chine qu'aux États-Unis. Hein. Donc, Apple sait faire, quand même. Apple, il y a des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire en Chine. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire en Russie. Hein, Apple s'adapte à ces marchés. Mais alors, tu vois, Braftor, c'est la deuxième réaction. Et attention, c'est ce que cherchent les groupes de lobbying américains. C'est nous donner cette image d'une Europe trop chiante, trop procédurale, qui empêche la fluidité des marchés et que... on est chiant, l'Europe, là, à empêcher avec notre RGPD qui fait des fenêtres pop-up qui font chier tout le monde et tout. Bah, je suis pas de cet avis. Moi, je trouve ça bien que l'Europe... on n'a pas à se soumettre aux lois américaines. Les Américains... L'État américain a ses intérêts, il les protège. C'est une bonne guerre. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur la souveraineté européenne. Sur le fameux Internet gratuit, qui est un contrat finalement entre l'utilisateur et un Google, etc. On signe contrat, je te donne pas d'argent, mais je te donne le droit d'utiliser mon data à des fins publicitaires. Même si c'est un contrat qui émane d'une boîte américaine, il signe quand même avec des Européens. Donc c'est aux Européens de signer le contrat, c'est pas aux Américains de décider du contrat. Attention, parce que on l'a vu notamment avec Meta. Meta a beaucoup voulu faire passer cette idée avec le fait que Threads n'arrivait pas en Europe. Et les lobbyistes américains qui sont à Bruxelles essayent beaucoup de faire passer cette idée qu'en fait l'Europe est chiante. On est des vieux, le vieux continent qui pète les couilles. Moi, je vous le dis, en tout cas, c'est ce que je pense. On a tout intérêt à protéger notre souveraineté et c'est à nous, les Européens, de fixer les lois de notre marché. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un Google, un Apple en Europe qu'on doit accepter les règles de ces boîtes américaines qui, déjà, hein, pour prendre une opinion populaire, ne payent pas l'ensemble de leurs impôts en Europe, par exemple. Donc, pourquoi on devrait accepter l'ensemble de leurs lois commerciales ? Et je dirais une troisième chose, et après, on va passer au poids lourd là, des articles. N'oubliez pas, et Jean Massier en avait bien parlé quand il est venu, la dernière keynote Apple, c'était hyper intéressant. Il y a ce qu'on appelle dans le monde le Bruxelles Effect. Je refais la blague. Non, ce n'est pas l'effet qu'on a après avoir mangé des choux de Bruxelles. Non, le Bruxelles Effect fait que des directives européennes inspirent le monde. dans le sens où l'Europe est assez, assez en avance sur certaines règles contre les GAFAM, ce genre de choses, et sont souvent suivies par d'autres pays. Alors, l'USB-C, c'est un petit peu plus complexe. Oui, quand même, l'Europe a fait partie de l'adoption de l'USB-C par Apple. Attention, Apple était déjà bien engagé dans l'USB-C, hein, avec les iPads et tout. Ils auraient pu attendre un an de plus. Mais oui, il y a eu un effet Bruxelles, mais c'est pas uniquement l'Europe qui a fait passer l'USB-C. Bon, c'est un autre débat. Les États-Unis et certains mouvements politiques et économiques aux États-Unis disent l'Europe, ils ont pas tort avec leur RGPD. Ils ont pas tort avec ce qu'ils font. Et on aimerait bien avoir la même chose aux États-Unis. Donc ne croyez pas, de toute façon vous le voyez bien hein, dans la politique américaine, tous les Américains sont pas d'accord. Hein. Tous les Américains sont pas en bloc derrière certaines idées économiques. Hein, voilà, ne sous-estimons pas, alors ne surestimons pas l'Europe non plus, mais arrêtez de sous-estimer l'Europe sur la pertinence et sa capacité à édicter des règles commerciales. Et j'ai envie de dire, moi je suis content que l'Europe, en tout cas sur les domaines du numérique, réagisse. On s'est trop longtemps fait marcher sur les pieds, sur plein de marchés en fait, hein, c'est le cas de le dire. Souvenez-vous, hein, les histoires Boeing, Airbus, etc. Il est temps que l'Europe dise waouh. Eh, ok, on est nul dans certains domaines, on est en retard sur plein de domaines, ok. Mais vous vendez quand même à des Européens là. Hein. Alors, on va pas rentrer dans ces débats, parce que je sais qu'un des problèmes majeurs de l'Europe, c'est que on a encore des souverainetés nationales qui sont très fortes. Que je trouve bien aussi, hein, je défends mon identité française. J'ai pas de problème là-dessus. Après, je vous cacherai pas qu'au niveau économique, j'ai tendance à plus penser en européen qu'en français. Et je pense que si on veut lutter contre des blocs que sont Chine, États-Unis, etc., et je sais que c'est pas parfait en Europe, mais je... Voilà, quand je pense start-up, je préfère penser start-up européenne que start-up française. Je parle dans le domaine du numérique, m'embarquez pas dans l'agriculture et les méandres bruxellois des politiques européennes, etc. Voilà. Moi, juste pour vous donner le fond de ma pensée, je pense que la souveraineté et l'identité n'est pas une question absolutiste. C'est des strates. Moi, j'ai plusieurs identités. Je ne peux pas uniquement me définir comme français, je ne peux pas uniquement me définir comme européen, je ne peux pas me définir comme américain alors que j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Voilà, j'ai plusieurs identités et je suis un métissage d'identité. Waouh là, j'en ai deux, trois là qui vont quitter l'émission tout de suite. C'est très bien. Américain, breton, parisien, savoyard. Mais il est tout, cet homme-là. Et en retard. Ça, toujours. Ça, c'est une grande constante de mon identité. Allez, on va passer, effectivement, j'ai pas d'autre... Ah, oui. On va passer quand même au gros, au lourd. Aujourd'hui, hein, on va parler de l'Unpack Samsung. En résumé, opportuniste. on va parler effectivement de l'Unpack qui a eu lieu hier soir. Alors, j'ai pas fait de live, j'étais trop fatigué. Et c'est vrai que je vous dis pas qu'on va arrêter les lives des keynotes, bien loin de là. il faut que je me restructure pour trouver le moyen de les faire efficacement. Voilà, hier, je me sentais vraiment pas, j'étais crevé. J'ai beaucoup de batailles à mener, il faut savoir choisir ses batailles, comme on dit. On s'en fout, je ferme la parenthèse. Samsung Unpack, intéressant. Dans la forme, on va toujours entendre que Samsung, c'est pas Apple. Il y avait des longueurs dans la forme. Samsung, on va dire, a surtout présenté effectivement des nouveautés autour de sa gamme Galaxy, hein, le haut de gamme de chez Samsung, les Galaxy S24, donc le S24, le S24 Plus, le S24 Ultra. À noter, mais je fais un entrefilet, qu'ils ont parlé à la fin, un peu un one more thing, de leur bague connectée, la Galaxy Ring. Mais pour l'instant, on n'a pas le prix, on n'a pas de date, on n'a pas les fonctionnalités, donc ça vaut pas le coup qu'on s'attarde vraiment dessus. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir quelque chose au niveau des bagues. On verra. Le plus intéressant, disons-le tout de suite, on va parler quand même du hardware des S24, mais le hardware était clairement pas le forte de cette présentation. Le forte, c'était Galaxy AI. Comment Samsung intègre l'intelligence artificielle dans cette gamme S24, présentée comme la première gamme S, a profondément intégré l'intelligence artificielle au sein des smartphones. À noter, avant tout, qu'une bonne nouvelle, et que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, et ça, les gens, j'étais chez Samsung il y a 2 jours, il y a 2-3 jours, j'étais chez Samsung France et ils m'ont bien dit ces nouveautés intelligence artificielle vont arriver sur les S23 en mise à jour. C'est du logiciel. Les S23 ont des processeurs assez puissants pour que ça tourne. Donc c'est une bonne nouvelle si vous avez un Galaxy S23, vous aurez toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc ça c'est plutôt cool. Alors expliquons un petit peu, parce que les choses vont devenir un petit peu complexes avec cette intelligence artificielle. Ce qu'a fait, en tout cas, cette année, Samsung avec l'intelligence artificielle, ils n'ont pas sorti un Samsung GPT, ou un Copilot, ou un Bard. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative dans certaines fonctionnalités du smartphone. Donc, vous n'avez pas un bouton Galaxy AI, qui aurait remplacé Bixby, avec une intelligence artificielle générative GPT-esque multimodale, qui pourrait... Vous n'allez pas avoir un Jarvis dans votre Galaxy. C'est pas le but, en tout cas, dans cette année 1. Vous n'aurez pas un Rabbit, voilà, pour donner l'exemple. Ce que Rabbit a essayé de montrer au CES, c'est pas ce que Samsung fait. Eux, ils ont plutôt intégré des fonctionnalités intelligence artificielle dans des usages et des applications qu'on a du smartphone. Donc, vous devrez quand même ouvrir l'application. J'expliquerai peut-être plus profondément la différence, parce que c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, l'IA ne devient pas une surcouche de leur OS, en fait. Voilà. Donc c'est pas Bixby ou Rabbit qu'ils ont fait. Là, c'est plutôt Galaxy. C'est des fonctionnalités avec Galaxy IA. Des fonctionnalités. Moi, j'ai vu les démos. La moitié des démos ne serviront à rien. Mais le plus important, c'est celles qui serviront. Il y a des trucs. Je pense pas qu'on l'utilisera beaucoup. Il y en a d'autres, par contre, je me vois très bien les utiliser. Alors, par exemple, il y avait la possibilité de résumer le contenu d'une page web depuis un navigateur Samsung. Vous ouvrez une URL, vous dites « résume-moi ça ». Par exemple, en une phrase, « résume-moi ça l'ensemble de ce site ». Ce qui peut être pratique quand vous avez 100 sites à lire, machin. Après, bien sûr, il faut vérifier. Hein. N'oubliez pas que ces IA, je le dis d'une manière avant qu'il y ait trop de réflexion, ça, les IA, c'est des stagiaires et ce n'est pas du tout un mépris envers les stagiaires, mais moi, quand un stagiaire fait un travail, je le check derrière. Quand une IA me fait un travail, je check derrière. Voilà, c'est tout. Vous aurez la possibilité de synthétiser des notes et de les trier automatiquement dans Samsung Notes. La possibilité de traduire sa voix dans des langues différentes au téléphone en temps réel. La démo est impressionnante, on l'a déjà vu chez Google et tout, mais là, c'est intégré dans votre téléphone. Vous pourrez, par exemple, quand vous êtes à l'étranger, passer un appel vers un restaurant, c'est l'exemple qu'il donnait, faire une réservation dans votre langue maternelle. Ça va traduire instantanément dans la langue du pays et retraduire dans l'autre sens avec votre interlocuteur. Il y a très peu de lag, ça marche très bien. Je me lancerai peut-être pas dans une discussion philo avec ce type de truc parce que il y aura probablement des approximations, mais pour réserver, voilà, pour une conversation utilitaire, ça fait vachement bien le job. Et c'est impressionnant quand même. Possibilité de changer le ton d'un texte ou de corriger les fautes d'orthographe. Alors ça, par exemple, quand vous écrivez un message, par exemple, t'inquiète, TXT, et vous dites, ah merde, en fait, là, je suis en train d'envoyer un message de réponse à mon boss. Vous pouvez lui dire, re-rédige mon message dans un langage plus professionnel. Oui, grand chef suprême, ne vous inquiétez pas, le travail sera fait en temps et en heure, c'est ce qu'il va vous proposer si vous écrivez « Ok, t'inquiète ». Voilà. Pas TXT, TKT, pardon. Ça marche plutôt pas mal. Je me vois bien le faire dans des mails et dans des trucs, ne serait-ce que pour aller plus vite sur des formules de politesse. Ouais, ça enlèvera le « ouais, t'inquiète, frère ». Ou quand vous envoyez chaque barre de baiser à votre mère, ça va le traduire en « ça m'a profondément choqué, cette histoire ». En vrai, ça peut être utile. Alors, les grincheux vont dire, bah, t'as qu'à écrire. Ah, franchement, ça va appauvrir toute une génération. Moi, à mon époque, on savait écrire, on en avait du style. Mon cul, oui. Ma génération a zéro style. Ma génération abrutie par la télé. On était déjà une génération, on disait qu'on n'avait plus d'orthographe, et moi, j'en ai pas. Qu'on savait pas écrire et qu'on lisait pas. Hein, je le dis aux plus jeunes qui écoutent ce matin. Ne croyez pas que vous êtes la seule génération, vous en êtes pris plein la gueule. Genre génération d'abrutis qui lit plus rien, qui sait plus rien faire. Hein. Ma génération, on a eu pareil. Hein. Bref, en orthographe, moi, c'est le truc qui me manque le plus sur un smartphone. Sur mon ordinateur, j'ai Antidote, qui marche super bien, qui corrige mon orthographe, et surtout ma grammaire. J'ai pas un gros problème d'orthographe, j'ai surtout un gros problème de grammaire. D'accord, participe passé, tout le tralala, je suis une merde, disons-le. Putain, d'avoir ça sur mon iPhone, sur mon... le lapsus. D'avoir ça sur mon smartphone, moi, ça me serait super utile. Ça, plutôt cool. Ils ont montré aussi la possibilité d'entourer du contenu sur l'écran pour faire une recherche d'image. Alors, en fait, c'est Google Lens. Mais, bien mieux foutu que Google Lens. Je m'explique. Sur un smartphone, aujourd'hui, si vous voulez utiliser Google Lens, il faut faire une capture de ce que vous êtes en train de regarder, la uploader dans Google Lens et me dire qu'est-ce que je vois, là. Quelle est la marque du blouson que porte, quelle est la marque du pull que Jérôme porte dans le mug? Là, vous faites une capture d'écran. Voilà. D'où vient ce pull? À mon avis, il ne trouvera pas. L'indice, il est là. C'est un Saint James, bien sûr. donc, vous faites une capture d'écran. Là, l'intérêt, c'est que... Et d'ailleurs, ils disent, hein, ça a été développé avec Google. En fait, il vous suffit d'entourer, sans même faire une capture, si vous entourez quelque chose à l'écran, il fait la capture et il l'envoie direct à Google Lens. En fait, c'est ça. Et franchement, ça marche plutôt pas mal parce que ça va marcher dans une vidéo. Vous êtes en train de regarder un live, voilà. Vous m'entourez. Vous êtes tous autour de moi. Non, vous m'entourez. Et là, il va. Si vous cherchez, je sais que beaucoup de gens m'ont demandé la marque de mes lunettes. Je suis obligé de regarder pour vous le dire. Je ne sais pas si Google Lens serait assez fort pour retrouver la marque de mes lunettes, mais peut-être. Il vous suffit d'entourer mes lunettes pendant que vous regardez Twitch sur un Galaxy S24 avec Galaxy AI, et il va vous trouver la marque des lunettes. Voilà. Donc franchement, ça c'est pas mal. Ça, je me vois vraiment bien l'utiliser. La possibilité, alors il y avait des possibilités d'édition de photos. Alors ça, on l'a déjà vu chez Google, hein, Google Photos, mais elle s'était même plus avancée que Google Photos, j'ai trouvé. Très impressionnante. Très impressionnante, je peux vous le dire, j'étais assez bluffé. J'étais là, putain, Apple, arrête de prendre du retard, ne serait-ce que sur photo, mets-moi du génératif sur photo. Un truc tout con, par exemple, quand vous redressez une image que vous avez vraiment mal bullée, ça oblige à cropper dans l'image. Et parfois, sur certaines images, on a envie de dire, putain, il faudrait que ça recrée un peu de matière. Ajoute-moi un arbre à droite, quoi. Là, il le fait très bien. Vous faites pivoter une image, il va remplir les bords de l'image en générant. C'est ultra bien réussi, quoi. Non, ça, c'est vrai, vraiment, vraiment bien foutu. Le problème, je vais le dire quand même. Le problème, c'est qu'en fait, c'est lié à des applications. Pour que la fonction IA fonctionne, il faudra utiliser la fonction de messagerie de Samsung. Il faudra utiliser leur navigateur web pour que ça fonctionne. En fait, Samsung a compris que s'ils sortaient un GPT de plus, ils allaient perdre la guerre. Donc, ils refont pas l'erreur de Bixby d'essayer de sortir une IA générale pour se battre en frontal avec Copilot, avec Google, etc. Mais le problème, c'est que du coup, si vous mettez un navigateur Chrome, vous allez préférer peut-être utiliser l'IA de Google dans votre navigateur plutôt que celle de Samsung, en fait. C'est un petit peu le problème. Pareil, pour les fonctions d'édition de photos, ça marchera si vous utilisez l'application d'édition de photos de Samsung. Eh oui. Il y a d'ailleurs un début de polémique un petit peu technique. Samsung a beaucoup insisté, notamment la présentation chez Samsung France, à nous dire c'est des fonctions IA que nous avons développées en interne chez Samsung avec nos propres modèles de langage. Nous assurons d'ailleurs, et ça c'était quand même très intéressant, qu'il y a beaucoup de fonctions qui fonctionnent hors ligne, en tout cas qui restent sur votre Samsung. Ça passera pas par des serveurs à distance. Vous pouvez cranter ça d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de fonctions, notamment par exemple la correction de message ou l'orthographe, resteront sur votre smartphone. Pas besoin d'aller transiter, donc d'envoyer du data sur des serveurs externes. La polémique viendrait que certains disent ça ressemble vachement à du Gemini de chez Google. On le saura peut-être pas, mais il semblerait quand même que Samsung soit pas mal appuyé sur Google pour développer les choses. Et d'ailleurs, certains partenariats sont affichés entre Samsung et Google. Moi, ce que j'ai trouvé assez paradoxal, je vous donne le fond de ma pensée, c'est que sur leur ordinateur portable, Samsung les lance avec Copilot, donc Microsoft. Il n'y a pas la touche Copilot, mais presque. Ils nous ont dit, si on n'a pas mis la touche Copilot, c'est parce que Microsoft l'a annoncé trop tard. Mais Copilot va vraiment être l'IA des PC Samsung. Et a priori, sur leur smartphone et probablement sur leur tablette, ils misent tout sur Galaxy AI, un peu en partenariat avec Google. J'y vois peut-être un problème. On verra. Mais clairement, on se dirige déjà vers un bras de fer entre Google et Microsoft. Est-ce que Galaxy AI va pas se faire squeezer là-dedans? Reste la grande inconnue, est-ce que Apple va débarquer? Alors là, Apple, on sait qu'eux, ils vont vraiment développer en interne. Ils auront peut-être 2-3 ans de retard, comme je le disais dans ma dernière vidéo. Apple va pas adapter Copilot aux fonctionnalités de l'iPhone pour l'intégrer dans iOS, quoi. Ils vont développer leur propre IA générative générale pour iOS. Attention, hein, pas de confusion. Beaucoup de gens ont cru que comme j'avais mis Copilot sur mon iPhone, Copilot contrôlait mon iPhone. Non, c'est là ce qui est frustrant. Copilot aujourd'hui ne peut pas rentrer vraiment dans mon iPhone. C'est juste une appli qui me permet d'accéder à Copilot. Mais je peux pas lui demander. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la différence. Copilot dans un iPhone, si Apple signait avec Microsoft, Copilot pourrait faire des réglages de votre iPhone lui-même, dépanner votre iPhone lui-même, parce qu'il aurait accès à réglages. Il aurait accès à mail, il aurait accès à votre calendrier, il aurait accès à l'ensemble d'iOS. Il serait dans iOS, en fait, Copilot. Là, l'application Copilot, on l'installe par-dessus et Apple ne laisse pas Copilot rentrer dans iOS. Ah, Cortana, c'est fini, hein, Cortana. Donc, il va y avoir une guerre des IA. Hein. Est-ce qu'il y aura une dominante? On verra. J'espère qu'Apple améliorera Siri avant de mettre une IA. Non, c'est en mettant une IA dans Siri qu'ils vont améliorer Siri. Ça, c'est clair. C'est pas avant de mettre une IA. Siri ne peut être amélioré que par une intelligence artificielle aujourd'hui. Ne serait-ce que dans la compréhension de ce qu'on dit. C'est le premier truc bluffant avec une IA, c'est qu'elle a une capacité à comprendre ce qu'on lui raconte qui est impressionnante. Parce que vous pouvez lui parler d'une manière hyper naturelle, même en vous trompant dans des phrases, en faisant des phrases valises et tout, elle va arriver à assez bien comprendre ce que vous lui racontez. Non, mais ne mettez pas en... Enfin, l'avenir de Siri, c'est l'IA. Sinon, Siri ne sert à rien, en fait. Je me sens vieux, je vois pas l'intérêt d'avoir dans le bouton action de l'iPhone IA de Microsoft. Ah bah, l'intérêt, il est génial. Regarde, je vous refais une petite démo, hein, si vous n'avez pas fait la vidéo. Exemple de ce que j'ai fait ce matin en préparant le mug. Je voyais qu'un de mes oliviers, parce que oui, j'ai deux oliviers, j'ai trois oliviers, avait des pousses sur le tronc qui servaient à rien. Bon, enfin bref, et je me posais la question, bah en gros, est-ce que je peux faire une bouture avec une petite branche d'olivier? Bah au lieu de faire une recherche, d'ouvrir et de chercher, ce que j'aurais pu faire. Là, j'ai fait ça. Hop. Est-ce que je peux faire une bouture d'olivier avec des petites branches d'un olivier? Alors, c'est pas méga rapide hein, pour l'instant. Il lui faut un certain temps. Oui, vous pouvez faire une bouture d'olivier
avec des petites branches d'un olivier. Pour réussir la bouture, il est important de suivre certaines étapes. Tout d'abord, il faut choisir une branche d'olivier saine et déchirée, avec un minimum de 8 à 9 feuilles et des nœuds très rapprochés. Ensuite, humidifiez la base des boutures et trempez-les dans de la poudre hormone.
Alors je sais hein, ce que vous dites, Jérôme, tu aurais pu quand même faire l'effort de faire une recherche sur IA. Mais l'avantage de ça, c'est que derrière, si j'ai des questions sur la conversation, à lui dire, je veux continuer sur les oliviers. Quelles sont, par exemple, les terres que je dois le mieux utiliser pour la bouture? Tu vois, je peux continuer la conversation. Elle va rester dans le contexte de la conversation. Elle sait que je parle déjà d'olivier. Si je lui dis combien de feuilles je dois laisser sur ma bouture? Ah, bah, sur ta bouture d'olivier, tu dois aller là. Je dois acheter quel terreau? Alors, pour les oliviers, je vois. Voilà. Alors que si j'étais dans le réactif, je devrais réouvrir le navigateur, redire. Pour une bouture d'olivier, quelles sont les terres que je dois utiliser? Quel est le nombre de feuilles que je dois utiliser si je veux faire une bouture d'olivier? Vous voyez, c'est ça le contexte, C'est ça le conversationnel avec une IA. Le problème, c'est que là, comme copilote, j'essaie de vous expliquer. En fait, si je vous explique tout ça, c'est pour qu'on revienne à l'IA sur le S24. Le problème, c'est que là, c'est juste l'app Copilot. Et je ne peux pas lui dire à l'app Copilot, est-ce que tu peux lire mes mails d'aujourd'hui et me faire un résumé? Il n'a pas accès aux mails. Il n'est pas dans iOS. OK? Ce que Samsung a fait, une démarche différente. Samsung a intégré... Samsung n'a pas fait une interface conversationnelle comme je viens de vous montrer. Vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton Bixby et que ça déclenche une IA conversationnelle. Par contre, ce qu'a fait Samsung, c'est que si vous ouvrez l'app messagerie, vous aurez accès à tout un tas de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont vous aider dans la rédaction ou dans la diction de vos messages. Est-ce que vous comprenez la différence ? Ouais, l'avantage en plus de... Oui, là, on rentre dans un débat technique. Copilot, pourquoi j'ai mis Copilot et pas Voice Chat GPT ? Parce que Copilot est relié au web. Et Copilot cite les sources. Donc, je peux aller vérifier direct sur le site qui m'a pas mal interprété un site internet, tu vois. Alors, je vais vous donner un autre exemple, ceux qui ne sont pas encore convaincus. J'ai un problème, par exemple, avec mon iPad. En fait, j'ai une boîte mail qui ne fonctionne pas sur mon iPad et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai vérifié le SMTP. Bon, c'est une boîte du boulot, donc on passe par notre propre serveur mail. Je mets le code, machin. Vous savez, enfin, ceux qui ont déjà eu des mails qui bug, et c'était d'autant plus étrange qu'il arrivait à envoyer les mails mais pas à les recevoir, eh ben, avec Copilot, alors il n'a pas, c'est ça la différence. Si Copilot, ils avaient un accord avec Apple, Copilot aurait pu dépanner le problème lui-même, en allant lui-même dans les réglages. Là, Copilot m'a assisté en allant dans certains réglages que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé, ça y est, j'y suis arrivé. Et en ça, ouais, j'aurais pu le faire autrement en faisant mes recherches moi-même sur le web, mais ça m'aurait pris vachement plus de temps et c'est tellement plus pratique d'avoir un assistant vocal qui m'aide vraiment sur des tâches aussi diverses que de faire des boutures d'olivier, comment j'imprime un document à partir d'un iPhone sur une imprimante HP que je connais pas, comment je peux régler les SMTP de mon serveur mail, voilà toutes les questions. En fait, j'ai envie de dire, une IA générative, elle va aider vos parents à mieux utiliser vos smartphones, quoi, à utiliser les smartphones, par exemple. Mais vous voyez là, ce qu'a fait Samsung, on en reste quand même sur les Samsung. Ce qu'a fait Samsung avec Galaxy AI. On est parti très loin, mais j'essaie de vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de conneries sur l'IA, je sais. Il y a du bullshit, ça devrait pas s'appeler intelligence, etc. Moi, je vois concrètement les services que ça me rend au quotidien. Peut-être que certains d'entre vous, ça rendra pas du tout de service, hein, on est tous différents. Moi, ouais, ça m'aide carrément l'IA tous les jours, là, maintenant. Et d'autant plus que je l'ai mis sur le bouton action de mon smartphone. Donc, c'est un geste hyper facile, quoi. Pour la gamme Fold ou Flip, est-ce qu'il y aura des mises à jour de l'IA ? Je crois que oui, David. C'est à vérifier. Bon, on a fait un tour assez long de ce que Samsung va faire avec l'IA. On va parler quand même un petit peu de hardware hein, autour de ces S24. Au niveau de la luminosité des écrans, Apple va battre le record, 2600 nits, donc très grosse luminosité, donc pas de problème pour voir en plein soleil. Tous les S24, qu'ils soient ultra ou pas, auront un écran LTPO, donc qui vont permettre les fréquences de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. C'est la fin totale des écrans incurvés, tous les écrans sont plats, complètement plats. Il y aura du Gorilla Glass Armor sur le Ultra, c'est le premier smartphone qui aura du Gorilla Glass Armor, le plus solide des Gorilla Glass. Pour le S24 et le S24 Plus, il aura du Gorilla Glass Victus 2. Du titane sur le S24 Ultra. Donc un peu effectivement ce que fait Apple. Il n'y a pas de surprise qu'ils le fassent et ce n'est pas du copitage. Ils ont raison de mettre du titane. De toute façon, n'oubliez pas que Apple, Samsung, tout le monde utilise... Enfin, bref. Là, il y a un potentiel de gravier immense là-dessus, mais ils utilisent tous à peu près les mêmes technos. Ils font tous un peu la même chose, en fait, en vrai. De là, est-ce qu'ils s'entendent entre eux ? Ah, tiens, je te file le Gorilla cette année, mais moi, je mets du titane cette année. Comme ça, on se fait pas. Peut-être qu'ils s'entendent. Normalement, ils n'ont pas le droit de s'entendre entre eux. Mais de temps en temps, je me dis... Je vois bien Samsung et Tim Cook qui s'appelle. Ok, alors nous, on met le titane en premier, mais on vous laisse le nouveau Gorilla Glass machin. Ok, c'est bon, deal, ça roule. Voilà, pour vous résumer un petit peu. Ce qui est une pratique anticoncurrentielle, hein, je le rappelle, de s'entendre là-dessus. Les puces Exynos sont de retour. Ça, même on était un petit groupe de gens de la presse et des youtubeurs tech chez Samsung France. Au moment où ils ont dit que les Exynos arrivaient dans le S24 et dans le S24 Plus, on a entendu. Bon, les Exynos, je vais pas vous le refaire, ils ont une mauvaise réputation. C'est moins bon que les Snapdragon. En autonomie, en puissance, ça fait chier tout le monde. Alors. Ça revient pas sur le Ultra. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Ultra sera en Snapdragon, Qualcomm, le dernier, c'est le 3. Gen 3, pardon. Snapdragon 8 Gen 3. Mais par contre, sur le S24 et le S24 Plus, vous aurez un Exynos, 2400. Alors, est-ce que Exynos, ça fait des progrès? On verra. On verra. On verra. Mais c'est sûr que Exynos n'a pas une très bonne réputation. C'est, ça fait chier parce que c'est que dans certains marchés qui mettent de l'Exynos. D'autres S24 à travers le monde auront du Qualcomm. C'est des raisons industrielles, hein, la raison de ça. Je sais que les gens du marketing chez Apple, ça les ravit pas. Hein. Mais Exynos, c'est des processeurs maison de chez Samsung. Pour qu'ils évoluent sur leurs processeurs, ils sont obligés d'en fabriquer et de les tester. Et on est un peu des cobayes en Europe là-dessus. Voilà. Oui, oui, ça pourra faire de l'IA en local avec l'Exynos. Oui, oui. Pas de problème. Au niveau de la batterie, sur le Ultra, pas d'évolution. Sur le S24, S24 Plus, on aura un peu plus de batterie. Mais surtout, Samsung dit qu'il y aura une nette hausse de l'autonomie par une optimisation, intelligence artificielle, tout le tralala habituel. On verra. On verra, hein, ça je peux pas vous le dire, je l'ai pas eu assez en main. Au niveau de la photo, un changement qui va faire grincer des dents. Mais que je trouve plutôt pertinent, notamment sur le Ultra. Samsung abandonne le x10 optique et passe au x5, comme les iPhones. Oh, quoi ? Plus de x10 optique sur les Ultra. Pourquoi ? Et j'arrête pas de vous le dire. Un x10 aujourd'hui, optique, sur un smartphone, ça fait bien sur la fiche de spec, mais c'est... Ça demande énormément de compromis. Notamment, ça a des ouvertures pourries des fesses. Ceux qui ont des x10, soyez honnêtes, 2 minutes avec nous. Ceux qui ont un x10, vous avez déjà pris une photo en basse luminosité avec votre x10? Parlez-nous du résultat. La plupart du temps, déjà, le smartphone vous empêche de le faire. Il va switcher automatiquement sur une autre optique et vous faire un x10 numérique. En fait, un x10 optique, c'est énormément de compromis. C'est des tailles de capteurs tout petits, toutes petites, pour augmenter ce qu'on appelle le crop factor et des ouvertures très grandes, en fait. Donc, passer au x5 permet une meilleure qualité de zoom optique. En fait, tu auras une base de photos qui est meilleure. Donc derrière, tu lui fais un petit x10 numérique, tu auras un meilleur résultat qu'en faisant un x10 optique sur des basses luminosités. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous ne me suivez pas, c'est pas très grave, en fait, vous en foutez. Non, il sera pas moins lourd. Une bonne question sur Newt, il sera pas moins lourd. Tu zoomes avec tes pieds. Bah, bonne chance quand t'as la mer devant toi, par exemple. Hein, la vieille phrase des photographes, t'as qu'à zoomer avec tes pieds. Ouais, bah, par exemple, une photo de bateau alors que t'es sur le quai, je zoome pas avec mes pieds, moi. Voilà. Il y a des situations. Si je prends une photo de footballeur, je rentre pas sur le terrain. Donc ça va, hein. Les photographes là, avec vos chapeaux de forme qui écoutent du jazz, avec vos chambres en bois sur des trépieds, vous nous pétez les couilles avec votre je zoome avec les pieds. Vous le savez, de toute façon, la photo computationnelle, c'est des petits arrangements avec les algorithmes. Arrêtez de croire au marketing des smartphones. Je dis pas que ça fait des mauvaises photos, mais c'est une science différente de ce que font les boîtiers dédiés. C'est tout. Oui, le x10 est présent dans l'interface, mais c'est un x10 numérique à base du x5 optique. Et si vous nous cassez les pieds, je vais zoomer avec mes couilles. Elle est pas mal, celle-là. Bref, ça, à mon avis, ça, j'ai déjà vu que ça faisait couler de l'encre. Parce que c'est perçu par la plupart des gens qui n'y connaissent rien en optique comme un rétropédalage de Samsung d'enlever le x10 optique. Mais moi, je pense qu'ils ont raison. Parce que tu auras une meilleure photo avec un x5 qu'avec un x10 en le mettant en x10 numérique. Ah, le marketing, hein, nous a vrillé tous le cerveau. Bref. Par contre, ils ont gardé le x3 et c'est vrai que entre un x3 et un x5, j'aurais mis un x2 moi au lieu de faire un x3, quitte à aller jusqu'au bout. Mais bon, non, mais c'est pour ça les fiches techniques sur Newt en photo, ça sert à rien, mégapixels, x10, machin. On s'en fout, en fait. La photo, c'est un peu plus compliqué qu'une seule stat. Tu peux pas. Je fais des photos trois fois mieux que l'autre. Ça veut rien dire. Rien dire du tout. Bref. Ploum. Mais bon, pour faire mon Apple fanboy, ça montre bien qu'Apple, avec son choix de mettre un x5 et pas un x10 sur son max, était peut-être pas si con que ça. Voilà. Il y avait peut-être des raisons. Bref. Du Wi-Fi 7, mais déception, pas compatible Qi 2. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Alors que Apple est compatible Qi 2, On n'aura pas la recharge 15 watts magnétique comme le MagSafe d'Apple. On restera avec le Qi 1 de 10 watts. C'est pas très très grave, mais ils auraient pu. Mais par contre, c'est cool. On aura du Wi-Fi 7. 7 ans de mise à jour. Ça, par contre, très bien. Très, très bien. Et très, très bien qu'ils fassent la nique à Apple là-dessus. Apple, d'une manière non officielle, était à 16 ans de mise à jour, mais ils l'ont jamais dit clairement. Google a ouvert la voie. Ils ont dit, nous, c'est 7 ans de mise à jour. Samsung embraye derrière. Bah, nous aussi, 7 ans. Ça donne un signal fort à l'ensemble du marché. Apple ne peut pas se permettre de dire... Oui, nous, c'est 7 ans, mais on préfère pas le garantir. Ils vont être obligés de garantir les 7 ans aussi. Et c'est très bien. C'est très bien. Ça garantit au smartphone d'avoir une deuxième vie, une troisième vie. Oui, pas grand monde ne gardera un smartphone pendant 7 ans, ça je le sais. Mais par contre, il y aura tout un marché solide qui va se construire sur les smartphones de deuxième main et de troisième main. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi c'est important ces prolongements de mise à jour. Voilà. Et pareil, tous ceux qui disent rendez-vous dans 7 ans, quelqu'un qui achète un smartphone en troisième vie n'attend pas de l'utiliser autant que quelqu'un qui l'utilise dans sa première vie. Ah. De toute façon, ils ne vont pas avoir le choix. Hein. Là aussi, ce n'est pas des décisions vraiment marketing. C'est la Californie. Il y a une loi californienne maintenant qui exige... 7 ans de réparation pour tout objet technologique qui vaut plus de $100. Moi, je trouve que c'est une très bonne loi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les prix. Les prix, alors, c'est à peu près les mêmes prix que l'année dernière. Je crois qu'il y a une légère baisse. À analyser, j'ai pas tous les prix en tête. Donc en fait, le S24, il sera à partir de 899 €. Le S24 Plus sera à partir de 1169 €, mais il sera pas dispo en 128, il sera direct en 256. Et l'Ultra, pareil, direct en 256 à partir de 1469 €. Comme chaque année, vous avez des offres spéciales Samsung, des offres de reprise. Et comme chaque année... Vous savez que Samsung, ils sont très chers à la sortie, mais les prix ont tendance à être ratiboisés assez vite derrière. Donc vraiment, l'acheteur Samsung, n'achetez pas tout de suite. Voilà. Les baisses de prix vont arriver très vite. Après, bon, si vous êtes vraiment pressé, allez-y, hein. Mais c'est marrant. Ça, il n'y a pas grand monde qui... Parce que putain, moi, ça me foutrait les boules. À 3 mois d'intervalle, des telles différences de prix. On critique Apple qui baisse jamais les prix de ses smartphones, ou très peu. Mais en même temps, Samsung, il les baisse tellement vite que je me mets à la place des gens qui achètent les Samsung à leur sortie, les boules qu'ils doivent avoir 3 mois après. Ils nous ont pas parlé de nouvelles Galaxy Tab, ils nous ont parlé de nouveaux Galaxy Book. Juste pour faire un point, parce que là il est 9h32, on va pas parler du Vision Pro aujourd'hui, on en parlera demain. On va pas parler d'Ubisoft non plus, on en parlera peut-être demain. Vision Pro, c'est sûr qu'on va en parler demain et c'est très bien, c'est le jour des précommandes. Mais je prends quelques questions sur les Samsung. Vu que j'étais chez Samsung France, je peux vous apporter quelques réponses, mais on s'arrêtera là. En fait, Samsung a une politique de dire nos smartphones sont supérieurs à ceux d'Apple, donc nos prix sont supérieurs à ceux d'Apple. Mais après, ils vont dire on aimerait bien que vous les achetiez, donc il y a plein d'offres promotionnelles pour pas que vous payiez le prix qu'on annonce. C'est une stratégie qui peut paraître un peu bizarre, mais en fait qui marche. Il y a beaucoup de smartphones, ils ont un prix, puis derrière, ils vous font des offres de lancement. Vous devez renvoyer un bon d'achat qui parfois, mais split le prix en deux, quoi. D'abord parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui oublient d'envoyer les coupons de remboursement. Mais ça permet aussi d'avoir un prix psychologique qui dit « On est à ce niveau de prix, c'est vous dire à quel point notre produit est excellent. Mais bon, achetez-le, on vous fait une remise. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se fait beaucoup hein, dans plein de marchés. Le prix est un gage d'excellence et de qualité. On est un peu conditionné par le marketing à se dire que quelque chose est plus cher, donc a de la valeur, ce qui n'est pas toujours le cas, et on le sait pourtant, mais ce n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Et donc derrière, on vous fait une ristourne, mais en fait, on est juste en train de vous faire un prix normal. Apple, ce n'est pas ce qu'ils font, parce qu'Apple, ils vous disent, voilà le prix de notre iPhone. Tant qu'on ne l'aura pas en refurb, on n'aura pas baissé le prix. Hein. C'est même un prix, c'est d'abord un positionnement. Et Samsung a eu raison. On n'est pas plus mauvais qu'Apple. Nos smartphones, nous, on considère qu'ils sont meilleurs que ceux d'Apple. Eh bien, notre prix est équivalent, voire supérieur à celui d'Apple. Point. C'est du positionnement marketing, c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Samsung avant qu'on arrête ? Pas de questions particulières, mais un récap ultra rapide de ce S24. J'ai pas prévu de faire une vidéo prise en main qui sont sorties hier. Brandon a dû en sortir une, iCollection, tous les autres ont sorti une vidéo prise en main. Est-ce que je vais faire une vidéo sur le S24? Je me réserve le droit, parce que je me méfie. Il y a une année, par exemple, Samsung, je vous avais un peu dit, ah, on va faire une vidéo sur les nouveaux Galaxy, et Samsung me les a jamais envoyés, j'ai jamais pu faire la vidéo, ou après, c'était trop tard, quoi. Donc, j'ai eu un peu la haine. Donc, j'ai envie de faire une vidéo sur le S24. Mais probablement un test plus long terme. Peut-être quelque chose sur vraiment l'utilité de l'AI. Donc, allez voir mes collègues si vous voulez des vidéos pour vous décider aujourd'hui si vous devez l'acheter. Hein, allez voir mes collègues, donnez leur vue, donnez leur des vues. Hein, on a une formidable communauté tech française de créateurs de contenu. Et je les aime tous. Certains plus que d'autres. Non, je les aime tous. J'ai complètement, merci la modération de me dire, j'ai oublié de remercier les contributeurs aujourd'hui. Je vais faire un remerciement rapide, on va pas partir dans les zbeul et les rages, parce que sinon ça va être trop long. Merci Sylvain Leto pour ton 40e mois d'abonnement, merci Nali Eric pour ton 39e mois d'abonnement, merci Dodo Bar pour ton 24e mois d'abonnement, merci Paf, la pastèque pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Papa Eiffel pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Vegan FR pour ton 24e mois d'abonnement. Merci Sanid pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Grogmir pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Tamors pour ton 35e mois d'abonnement. Merci Sem pour ton 27e mois d'abonnement. Merci Eros pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Jean-Phi pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Electribe 45 pour ton 28e mois d'abonnement. Merci Romain Actutech pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Manciard pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Pulse pour ton 25e mois d'abonnement. Merci Curishan BRD pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Julien92FR pour ton 33e mois d'abonnement. Merci La Jouve pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Kaokukung94 pour ton 26e mois d'abonnement. Et merci Samuel, pour ton 46e mois d'abonnement. Bla 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 bla. Prout d'honneur pour Samuel. 46, tu les bats tous, hein, Samuel, hein, je pense. Que conseillerais-tu entre Samsung S23 FE? Moi, je prendrais un S23 aujourd'hui. Peut-être pas le FE. Le problème du FE, c'est qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, il est cher par rapport à la dévaluation des S23. Honnêtement, enfin, ce n'est pas un mystère, mais je pense que le bon achat, c'est le S23. Hein. Oui, je pense que ça va baisser vite, parisienne, les S23. Et franchement, là, ça sera un très, très bon achat. Rapport qualité-prix imbattable. Et en plus, vous aurez Galaxy IA cet été. Ils m'ont dit plus ou moins que Galaxy IA arrivait cet été sur le S23. Le retour de la charge rapide 45 watts sur les S24 Ultra, bah, ça veut dire que Samsung est en train de calmer ses angoisses sur la recharge rapide et c'est très bien. Oui, les slogans pour les contributeurs de plus de 36 mois, c'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Oh, franchement, S23, c'est peut-être le bon achat, hein, ouais. Il y a le live contributeur ce soir, oui, à 18h pour les contributeurs. Retrouvez-nous sur le Discord, retrouvez le lien du live privé des contributeurs sur le Discord privé des contributeurs. Hein, c'est ça qui vous donnera le lien et l'accès à ce live privé. C'est Fan Edition, FE. Je crois que c'est officiellement Samsung qui l'a dit, ça. C'est Fan Edition. Apple va racheter Samsung. Alors attention, Apple c'est gros, mais n'oubliez pas que Samsung, sa division mobile, c'est une des filiales du groupe Samsung qui est absolument gigantesque, qui font des cuiseurs de riz, du BTP, des autoroutes. Samsung c'est un conglomérat coréen, comme LG, comme d'autres. C'est des entreprises, c'est assez spécifique à la Corée ça, mais c'est des groupes énormes. Donc, éventuellement, Apple pourrait racheter la division mobile de Samsung, mais Samsung ne la revendra jamais. Parce que pour eux, c'est de la recherche-développement pour leur division d'écran, par exemple, qu'ils vendent à Apple. Je réponds encore à quelques... Allez, une ou deux questions si vous en avez sur Samsung, sinon je vous laisse. C'est des cheerballs, comme on dit en Corée. Je l'ai probablement très mal prononcé. Ça vient de l'histoire de la Corée, hein, de sa reconstruction après-guerre, ces grands groupes. Après, je ne suis pas un spécialiste de la Corée, donc mais je crois que c'est ce que j'avais lu. Quel casque ou écouteur pour le S23 à prendre ? Bon, leurs buds sont pas mal, je crois. Hein. Les buds sont pas mal et auront... Alors, pareil, les écouteurs, il faut toujours trouver le crantage entre qualité et intégration dans l'écosystème. L'avantage des buds, donc des écouteurs Samsung, c'est qu'ils sont parfaitement intégrés dans l'écosystème Samsung. Donc, pour passer d'un device à l'autre... Donc, si tu as un Galaxy Tab, un smartphone Galaxy, un ordinateur Samsung... C'est parfait, parce que ça va switcher de l'un à l'autre hyper facilement. Si après, tu cherches la meilleure qualité, il faut aller voir au niveau de chez Sony, au niveau... Il y en a plein, quoi. Ils vont aussi faire de la réalité virtuelle. Il n'y a pas eu d'annonce du tout. Ils ont parlé d'une bague connectée, mais il n'y a pas eu d'annonce du tout dans le domaine de réalité mixte ou réalité virtuelle ou d'AR chez Samsung. Ils avaient un peu dit qu'ils iraient. Je pense qu'ils attendent de voir si Apple, ça marche. Sachant qu'Apple, c'est pas de la VR. Hein. Attention, Apple, c'est de la réalité mixte. C'est pas exactement de la VR. Enfin, ça peut faire de la VR, mais c'est pas ce que vise Apple. Et du pliant en vue de sortie, généralement, ils les annoncent pas au même moment, hein, les pliants Samsung. Ils les ont déjà annoncés fin 2023, le Z Flip 5 et le Fold 5. Donc là, c'est normal, dans l'Unpack, il n'y a pas les pliants. Tu vas acheter l'Ultra ? Pour le test, a priori, on essaye d'abord d'avoir des pré-presses de la part de Samsung. Est-ce qu'on l'achètera pour le tester? Après, est-ce que je vais l'acheter pour moi? Pour l'instant, non. Si je devais switcher, je serais peut-être plus attiré par un Pixel aujourd'hui qui intégrera peut-être plus profondément l'IA que les... Mais je sais pas. Mais pour l'instant, je vais être honnête, je suis très content avec mon iPhone. Là, je parle au niveau perso. Hein. Après, c'est là où il faut que vous différenciez. Il y a moi, puis il y a l'entreprise qui gère cette chaîne. L'entreprise, oui, elle achète des smartphones pour qu'on fasse des vidéos dessus. Bon, là, vous êtes en train de sortir des questions autour de l'unboxing. Questions qu'on va peut-être réserver pour demain. Hein. Le mug du vendredi est un mug libre où je prépare beaucoup moins mes articles et où je suis beaucoup plus là pour répondre à vos questions. Donc, rendez-vous demain matin. Rendez-vous ce soir pour les contributeurs. On va lancer un raid sur une chaîne. Et bah tiens, je vais vous envoyer chez Frandroid Live. Ils doivent être en train, ils vont probablement parler des galaxies. Si vous avez encore des questions à leur poser, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin à 8h. Ciao tout le monde.